Quand on dit d'ailleurs les musées, on doit se souvenir que 61% des musées sont en Occident. Donc il y a une énorme différence. Quand on dit le musée, c'est quand même le musée en Occident. Il y a 0,08% sur le continent africain, c'est très peu. Donc je veux dire, le musée est vraiment une création de l'Europe des Lumières et ensuite occidentale. Donc aller au musée, c'est découvrir ses propres mondes. Puisque tout cela a été pillé, je veux dire, c'est des centaines de milliers d'objets qui sont dans les musées.
Effraction, le podcast, vous raconte le monde à travers la fiction littéraire. Dans cet épisode, il est question de colonialisme, d'histoire familiale et de relations amoureuses, des sujets qui traversent le roman Portrait Huaco de Gabriela Wiener, paru chez Métayer en 2023. Pour en parler, Colline, bibliothécaire, reçoit la politologue Françoise Vergès, spécialiste des féminismes décoloniaux. Colline.
Portrait Huaco est un récit de Gabriela Wiener, oscillant entre autofiction, enquête familiale et essai historico-politique. Huaco désigne un type de pièce de céramique préhispanique réalisée à la main. Objets de décoration ou d'offrande, ils trouvent leur fonction dans un sépulcre ou un temple sacré. À la mort de son père, la narratrice de ce récit revient à Lima où elle est née, et retrouve le récit de voyage de son supposé arrière-arrière-grand-père, Charles Wiener, pilleur d'objets préhispaniques. Rapportés en France pour l'exposition universelle de Paris en 1878, ils sont aujourd'hui conservés au musée du Quai Branly. Tout en donnant à entendre les représentations teintées de paternalisme du colonisateur et les exactions commises au nom de la civilisation, la narratrice dresse le portrait en creux de cet ancêtre, un homme ambivalent qui était un écrivain comme elle, et tente de mettre en lumière, dans un style empreint d'autodérision, son héritage complexe et ses propres contradictions. Ce récit soulève de multiples questions, comme la filiation, le deuil, les différentes facettes du désir, mais aborde également des thématiques saillantes à l'heure actuelle, comme l'héritage post-colonial, le féminisme, l'avenir de nos, je cite, « très beaux musées érigés sur des choses très laides », et la question des réparations et de la restitution des œuvres d'art aux peuples auxquels elles ont été volées. Dans Portrait Huaco, la narratrice aborde la question du racisme qu'elle subit en tant que femme d'origine péruvienne vivant en Espagne. C'est le point de départ d'une réflexion plus générale sur la construction de notre histoire commune, blanche et masculine. Qu'en est-il et que pouvez-vous en dire au regard de vos analyses et de vos recherches ?
Françoise Vergès.
Il y a dès le départ, quand l'Europe se lance dans la colonisation du monde, une rupture qui va s'installer puis se consolider entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, les vies qui sont désirables et les vies qui peuvent être massacrées, lancées au génocide avec leur environnement détruit. Et cette coupure de la modernité occidentale, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le nord, le sud, par exemple, dans cette opposition. Donc toute personne qui vient du sud, en arrivant dans le nord, arrive chargée par les personnes du nord, mais aussi en elle-même, dans son esprit, par cette histoire qui se perpétue aujourd'hui. Il n'y a pas d'égalité du tout entre le nord et le sud. Les moindres chiffres vous montrent qu'on vit plus longtemps au nord qu'au sud. Enfin, je veux dire, des choses vraiment très concrète. Hein. Elle arrive en Espagne où finalement, même si elle parle espagnol, elle est marquée comme différente. Elle est marquée comme femme, comme indigène, comme péruvienne. Donc c'est ce marquage qui va s'entendre dans l'accent, dans la manière de parler, mais même aussi dans ce qu'elle est, dans son corps, elle va s'affronter à ça. Il y a beaucoup aussi en littérature ou dans les études des personnes qui racontent se découvrir noire ou racisée en arrivant en Occident. Donc pour elle, pour cette autrice, elle est une femme. Elle est née au Pérou, mais elle découvre que la société espagnole lui renvoie le fait de ne pas être simplement une femme polyamoureuse qui a des désirs et des aspirations comme tout être humain. La société espagnole la marque comme différente et autre, et une différence qui la marque comme mineure, pas vraiment totalement espagnole, blanche et chrétienne.
Dans une scène très drôle, lors d'un séminaire « Décoloniser son désir », Gabriela Wiener évoque son mariage polyamoureux et son impasse presque morale. Elle constate ne tomber amoureuse que de blanc, incarnant la figure du dominant, du colonisateur. Est-ce que la question coloniale s'impose dans l'intimité des relations des personnes racisées ?
Oui, l'histoire coloniale s'impose, enfin s'impose et présente dans les relations intimes, les relations amoureuses entre colonisés, enfin descendants de colonisés et descendants de colonisateurs, puisque dès le départ, ces relations sont sous la loi coloniale. Une des premières ordonnances, par exemple, dans le monde colonial français, est l'interdiction des relations entre femmes blanches et hommes non blancs. Et ensuite, il y a tout un tas de développements qui vont se faire aussi au XIXe siècle, autour de ce que Édouard Saïd a exploré sur l'orientalisme, c'est-à-dire la représentation de la femme musulmane, de la femme arabe. Donc il y a toute une série de représentations des femmes noires, des femmes arabes, des femmes asiatiques, ou des hommes aussi d'ailleurs, qui ne sont évidemment pas à la hauteur de la masculinité, de la féminité blanche. Et qui en même temps, cette masculinité et féminité blanche sont posées comme des personnes désirables, justement. Et il y a des descriptions extrêmement racistes et extrêmement violentes des femmes noires, asiatiques et arabes dans les textes coloniaux. Donc ça ne se détache pas, puisque les différences se perpétuent dans la société. Il n'y a pas que des différences de classe, il y a des différences aussi raciales. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles blanches, par exemple, qui ne vont pas voir d'un bon œil la relation de leur fils ou de leur fille avec une personne non blanche. Donc oui, ces relations sont traversées par toute cette histoire et par le présent. C'est pas simplement le passé, c'est aussi le présent. Donc elle se pose cette question, qu'en est-il de son désir? Pourquoi désire-t-elle que des personnes blanches? Est-ce que c'est purement du désir ou autre chose, ou justement un reste ou une présence d'aliénation? Ça a été très exploré autant dans la littérature, par exemple par Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, où il y a tout un chapitre consacré au désir d'une femme noire pour un homme blanc, et dans un autre chapitre, le désir d'une femme blanche par un homme noir, comme l'incapacité finalement d'aimer la personne qui vous ressemble. Non pas qu'il faudrait exclusivement être avec des personnes de son même groupe ou de sa même communauté, mais comment finalement, comme vous le dites, ça s'impose malgré tout.
La scène initiale du roman amène une réflexion sur la difficile question de la restitution du patrimoine culturel pillé ou volé et sur les réparations. Est-ce que l'expérience personnelle de Gabriela Wiener fait écho avec votre angle d'analyse ?
L'expérience personnelle, oui, fait écho parce que finalement, moi je visite beaucoup les musées à travers le monde, mais quand on dit d'ailleurs les musées, on doit se souvenir que 61% des musées sont en Occident. Donc il y a une énorme différence. Quand on dit le musée, c'est quand même le musée en Occident. Il y a 0,08% sur le continent africain, c'est très peu. Donc le musée est vraiment une création de l'Europe des Lumières et ensuite occidentale. Donc aller au musée, c'est découvrir ses propres mondes. Puisque tout cela a été pillé, je veux dire, c'est des centaines de milliers d'objets qui sont dans les musées. Par exemple, au British Museum, au musée de Cambridge, au Humboldt ou au Prado, ce sont vraiment des centaines de milliers. On est dans des chiffres à 100 000, 500 000, 300 000 objets. D'ailleurs, le terme objet est problématique parce que ça part autant de manteaux sacrés de plumes pris aux populations d'Amazonie qu'à un tambour, qu'à des flèches, des masques, des tapis, des vêtements. Quand on dit objet, il faut se rendre compte de l'extrême diversité qu'il y a d'objets qui étaient des objets sacrés, des objets pour lesquels il y avait toute une dimension affective, culturelle, des objets qui étaient chéris, aimés, qui avaient été fabriqués. Le choc de voir ces objets tout d'un coup sous des vitrines en plus, donc des objets qu'on ne peut plus toucher, qui ne peuvent plus entrer de nouveau dans cette relation affective, culturelle, sacrée, sociale. Et ça aussi, c'est un choc. Ce n'est pas simplement de reconnaître l'objet, c'est de voir que cet objet a été arraché à son milieu. Je ne sais pas, bon, il y a l'exemple évidemment de ce dont elle parle, hein, de ces objets, je suis vraiment désolée de prendre ce mot, mais on n'en a pas d'autres, Waka. Mais vous imaginez, même quand vous allez dans certains musées, vous voyez des statues de déesses du Panthéon, enfin pour l'appeler ainsi, hindou par exemple. Bon, ben, c'était des statues qui étaient chéries, à qui on apportait à manger, des fleurs à qui on présentait les enfants, hein, qui étaient lavées avec du lait et de l'huile, qui étaient donc vraiment dans un espace totalement social et culturel et sacré. Cet objet est arraché par les Européens et mis dans un musée. Vous l'observez, vous voyez un très bel objet esthétiquement, c'est magnifique. Mais il est mort. Je suis toujours extrêmement surprise ou même stupéfaite du nombre d'objets que je vois dans des petits musées, même de villes moyennes ou de petites villes en Europe. Il y aura toujours des objets du continent africain, asiatique ou islamique, alors que vous ne trouverez jamais dans des musées au Pérou, par exemple, des meubles de Bavière. ou des bijoux de la Renaissance italienne. Donc cette pulsion, vraiment cette avidité, elle est vraiment celle du monde occidental. Donc oui, tout ce qu'elle explore ensuite m'est tout à fait familier.
Gabriel Avineur met en scène de nombreux exemples de l'horreur du colonialisme perpétré pour le bien des Péruviens à la fin du XIXe siècle. Vol d'enfants, zoos humains, pillages, considérations ethniques. Maintenant qu'on décortique le discours colonial, en a-t-on fini avec ces pratiques ou subsistent-elles sous d'autres formes ?
Les pratiques coloniales subsistent sous d'autres formes. Elles perpétuent, comme je l'ai dit, dans les inégalités entre le Nord et le Sud, inégalités culturelles, inégalités commerciales, inégalités politiques, inégalités de présence au monde. Je veux dire, dans les médias, vous entendez rarement parler des débats qui se déroulent en Pérou, par exemple. Vous n'en avez aucune idée, donc c'est comme si ça n'existait pas. C'est quand même un immense pays. Vous ne savez même pas de quoi les gens parlent, qu'est-ce qu'il y a dans les expos, quels sont les films que les gens regardent. Vous n'avez strictement aucune idée. Donc oui, ça se perpétue dans ces inégalités. Ce que j'ai trouvé vraiment aussi assez passionnant dans le livre de Gabriel Winner, c'est toute cette exploration de cet ancêtre. D'abord, après, vers la conclusion, c'est est-il vraiment cet ancêtre ou peut-être c'est un autre Winner, puisque finalement, ces noms pouvaient circuler. Mais c'est vraiment intéressant, oui, autour de ces objets que cette enceinte présumée rapporte et qui seront exposés d'ailleurs en 1878 dans une galerie où la mise en scène va être une mise en scène de ce qu'était, aux yeux des Européens, l'Empire Inca. Moi, je me disais, mais vraiment, c'est Tintin, le temple du soleil, là, pratiquement. C'était vraiment, ces mises en scène qui sont une forme d'éducation. Puisque, voilà, on présente aux Français, enfin, au public qui a visité cette exposition, voilà ce que c'est que le monde Inca. Et ces images restent encore aujourd'hui. On n'en a pas fini. Et puis, les restitutions d'objets, on en est vraiment au tout début. Et c'est encore très modeste. Très modeste, il y a beaucoup de résistance.
La narratrice de ce récit écrit que dans ses veines coule un mélange de sang huaco et de sang huaquero. Elle évoque donc l'ambivalence et la complexité de son héritage familial. Qu'en est-il ?
Quand elle aborde cette question d'un double héritage ou peut-être d'un triple ou plusieurs héritages, plusieurs réponses peut-être. D'une part, la colonisation européenne a marqué le monde, vraiment, a bouleversé le monde, a coupé même des relations qu'ils pouvaient avoir, a indiqué, ben voilà, ça c'est le Pérou, ça c'est le Mexique, ça c'est le Cameroun, alors qu'il y avait des circulations beaucoup plus grandes à l'intérieur des continents. Donc a marqué non seulement l'histoire, mais la géographie, l'appréhension du monde. Et a marqué aussi les relations intimes, le fait que les colonisateurs étaient là, ont imposé leur langue, ont imposé leur culture, ont imposé leur architecture, leurs lois administratives, culturelles, a profondément marqué les sociétés. Les sociétés héritent de cela, à la fois de ce qui est resté en mémoire, de ce qui a été transmis, d'autres formes de culture, des cultures indigènes, mais pas simplement autochtones, mais des cultures finalement de sociétés autres que la société européenne, avec cela, donc tout ce que la société européenne apporte, et très intimement. Hein. Mais d'autre part, c'est aussi, on peut dire, une remise en cause de tout un discours sur la pureté, qui était un discours occidental de la pureté de sang, de la pureté justement de la culture, hein. Une langue, une religion, une manière d'être. Et en fait, dans ce monde qui est devenu le monde colonial, il y avait vraiment, comme je le répète, des circulations. Les continents n'étaient pas fermés sur eux. Moi qui suis de l'océan Indien, je sais qu'entre l'Afrique et l'Asie, il y a des relations millénaires qui précèdent l'arrivée des Européens dans ce monde. Donc on a des circulations d'idées, de sons, de musique, de poèmes, d'idées religieuses, d'idées de formation de soi. Il y a des objets qui circulent. On a retrouvé des objets de la céramique chinoise au Mozambique qui datent du XIe siècle. Donc je dirais dans la remarque que Gabriela Winner fait, il y a à la fois ce qu'elle vit et en même temps elle traverse, elle circule dans cette ambiguïté. Ça ne l'arrête pas, je veux dire, ça ne la bloque pas. Et moi j'entends aussi justement une remise en cause d'une idéologie de la pureté, qu'on devrait être monolingue, monoculturel, monoreligieux, monogenre, tout cela, puisque justement elle affirme qu'elle est à la fois queer et hétéro et cis. Tout cela, elle dit, mais on peut vivre à travers ces plusieurs formes de soi, d'expérience de soi. On n'est pas obligé d'avoir une seule expérience de soi.
Quelques jours plus tard, j'obtiens enfin l'adresse électronique du vinérologue Rivial et je décide de lui écrire. Je lui envoie un message, encore sous le choc de ma découverte récente, ce prénom étrange sur le certificat de mon arrière-grand-père. Ce n'est pas un certificat de naissance, mais de baptême. Cependant, même ainsi, cette donnée complique tout, à moins que ce soit le contraire. Gabriela Wiener, gwiener@gmail.com. Bonjour Pascal, je suis Gabriela Wiener, journaliste, écrivaine et descendante de Charles Wiener. Je n'ai pas l'habitude de me présenter comme ça, mais je peux expliquer pourquoi je le fais. Je sais que vous avez consacré une partie de vos travaux de recherche à la figure de Wiener. Puis-je vous poser quelques questions, Gabriela? Pascal Rivial, chère Gabriela, au cours de mes recherches, j'ai eu l'occasion de constater qu'il existe une hypothèse selon laquelle Charles Wiener aurait eu une descendance au Pérou. Votre avis à ce sujet m'intéresse et bien entendu je répondrai avec plaisir à vos questions. J'ai récemment publié une réédition du récit de voyage de Wiener. Dans l'introduction que j'ai écrite, je donne certaines informations biographiques qui pourraient vous intéresser. Je reste à votre disposition, Pascal. Quel avis pourrais-je donc avoir sur la descendance de Charles Wiener au Pérou ? Rivial ne s'en est pas rendu compte, mais il vient de m'appeler, sans doute avec la meilleure des intentions, une hypothèse. Je n'ai rien entendu d'autre durant ma vie. Mon prénom est suivi du nom de famille d'un homme prénommé Charles. Je réalise alors que j'ai demandé à un Européen que je ne connais pas ce qu'il sait à propos de moi, ce qu'il sait à propos de nous. Et le pire, c'est qu'il croit le savoir. Le pire, c'est qu'il m'a répondu.
Retrouvez Gabriela Wiener et son roman Portrait Uaco pendant le festival Effraction du 6 au 10 mars 2024 à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à Paris. Cet épisode a été préparé par Colline Bernard et réalisé par Michel Bourzex et Fabienne Charère. La musique du générique est de Thomas Boulard et les lectures de Caroline Girard. Merci aux éditions Métayer. Effraction, le podcast, est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Retrouvez tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.